Cette semaine, dans Entretien avec un évêque, j'ai le plaisir de recevoir Monseigneur Antoine Hérouard, l'évêque auxiliaire du diocèse de Lille. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Élise.
On va parler de deux choses aujourd'hui. On va commencer avec cette assemblée plénière de la conférence des évêques de France qui s'ouvre le 3 novembre. On dira aussi un mot sur le synode des jeunes qui s'est refermé il y a une dizaine de jours. Plusieurs choses intéressantes sont ressorties d'un texte où l'on croyait que, avec la diversité des jeunes du monde entier, il n'y aurait pas forcément beaucoup de propositions. On verra qu'il y en aura quelques-unes. On y reviendra. Un mot tout d'abord sur cette assemblée plénière qui commence le 3 novembre. Un rapport a été publié en amont de cette assemblée plénière sur les abus sexuels qui ont été commis par des clercs et qui se sont manifestés auprès des évêques. Un rapport qui révèle que la parole s'est manifestement libérée.
Alors, je pense que c'est très important de pouvoir publier un tel rapport et de le faire régulièrement. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais demandé comme membre de la CPLP, la cellule de lutte contre la pédophilie. Parce que, contrairement à beaucoup d'idées reçues, comme quoi l'Église ne fait rien et reste inactive, cache des choses, etc., la vérité des faits et les éléments factuels vont aussi montrer que, même s'il y a encore ici ou là telle ou telle difficulté, on est engagé quand même dans
un procès qui a lieu en ce moment dans le diocèse d'Orléans.
On est quand même engagé dans un travail de longue haleine qui a été commencé dans les années 2000, donc c'est pas d'aujourd'hui, et qui a connu aussi une accélération depuis 2 ans à peu près. Voilà.
Comment vous l'expliquez, Monseigneur Hérouard? C'est dû à la médiatisation de ces affaires, à la mise en lumière de certaines affaires?
Ce qui ressort dans les chiffres là qui ont été publiés, c'est que de fait, depuis 2016, il y a eu davantage de faits qui ont été signalés.
211 oui. Victimes.
Mais en même temps, si vous regardez jusqu'au bout, vous verrez, c'est pas parce qu'il y en a plus, c'est aussi parce que beaucoup sont des faits anciens. Et que donc, de ce point de vue-là, la médiatisation a eu certainement aussi un effet positif. Mais elle a aussi un effet négatif qui est de croire qu'on est devant une avalanche de situations et de cas, ou aussi sur un regard parfois injustement critique vis-à-vis des prêtres. Je pense aussi qu'il est important aujourd'hui, et en particulier pour les évêques, mais pas seulement pour eux, pour l'ensemble du peuple de Dieu, de redire aux prêtres la confiance que nous avons en eux et de ne pas les regarder comme des pédophiles en puissance. Quand on croise quelqu'un dans la rue qui est marié, qui porte une alliance, on commence pas par lui dire « Ah ben, vous trompez votre femme ou vous la battez ». Et pourtant, ce sont aussi des phénomènes qui existent dans la société. Donc, je pense qu'il faut aussi faire très attention à cela. Bien sûr, il faut faire la vérité, il faut dire ce qui s'est passé, il faut condamner ces agissements de la façon la plus ferme quand ils surviennent. Mais il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des prêtres et au contraire les encourager dans leur mission. Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une façon de parler de ces questions dans un certain nombre de médias qui ne me paraît ni juste ni fondée.
Il y a ce chiffre, 211 victimes d'abus sexuels commis par des clercs qui se sont manifestés auprès des évêques. Ça prouve aussi l'efficacité de la mise en place des 71 cellules d'accueil et d'écoute des victimes dans les diocèses.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui savent qu'on peut s'adresser à l'Église, alors soit directement à travers la cellule dans un diocèse, soit à travers des adresses Internet, des numéros de téléphone. Enfin, les portes d'entrée sont multiples. Donc, on ne peut pas dire que l'Église reste sourde et se barricade pour ne pas écouter des victimes. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire à Lourdes, en recevant un certain nombre de victimes et en les recevant par groupe d'une trentaine d'évêques, avec deux victimes dans chaque groupe, pour pouvoir avoir non seulement écouter un témoignage, mais aussi avoir un échange, et un échange qui puisse être constructif à la fois pour elles dans leur chemin de reconstruction, et puis aussi pour les évêques et pour l'Église, pour que nous puissions apprendre aussi non seulement ce que ça peut signifier pour elles, mais aussi comment est-ce que nous pouvons mieux agir pour éviter de tels drames.
C'est la première fois, Mgr Hérouard, que la Conférence des évêques de France accueille en son sein des victimes.
En tant que tel, oui. Alors après, il y a déjà beaucoup, enfin un certain nombre d'évêques ont reçu des victimes dans leur propre diocèse et les ont écoutées, les ont aiguillées aussi. Ça c'est des choses qui se font, voilà, de façon maintenant relativement habituelle. Mais là, c'est aussi un signe aussi que nous avons voulu donner pour montrer que l'Église est très attentive à ces situations, et en même temps qu'elle n'est pas dans une sorte de, je sais pas, de marchandage ou de négociation avec tel ou tel groupe de pression.
Cette assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, donc qui accordera une large place donc à cette question des abus sexuels dans l'Église, il y aura évidemment plein d'autres dossiers abordés. Lequel vous attendez en particulier, Mgr Hérouard ?
Alors moi, je vais en souligner un qui me concerne très directement, puisque vous savez que je suis l'évêque en charge des questions européennes avec la COMECE à Bruxelles, et donc nous allons avoir une grande séquence sur l'Europe en deux temps. Le premier, c'est une rencontre, une sorte de table ronde avec deux intervenants. Un, Monsieur Enrico Letta, qui est l'ancien président du Conseil italien, ancien Premier ministre, si vous voulez, qui est un homme qui est engagé depuis très longtemps sur les questions européennes, qui vit aujourd'hui à Paris, qui est président de l'Institut Jacques Delors, et qui viendra nous dire un petit peu son point de vue, à la fois comme homme politique et aussi comme chrétien engagé et homme de conviction, sur la construction européenne. Et puis l'autre, c'est le frère Olivier Poquillon, qui est dominicain et qui est le secrétaire général de la COMECE à Bruxelles, qui lui viendra aussi peut-être davantage expliquer qu'est-ce qu'ils font et comment ça fonctionne. Et puis nous aurons un temps de forum. Qu'est-ce que c'est qu'un forum ? Donc c'est un groupe d'une trentaine d'évêques, et l'idée c'est de pouvoir aider les évêques à s'exprimer sur cette question, en relevant à la fois ce qu'ils entendent, ce qu'ils vivent dans leur propre diocèse autour de la problématique européenne, et puis d'essayer de repérer comme Église. Donc il ne s'agit pas simplement de se situer comme citoyen, chacun a des positions par rapport à la situation politique, aux élections qui vont venir au mois de mai, mais comme responsable d'Église, qu'est-ce que nous avons à dire, quelles sont les questions que nous avons à poser, quels sont les points d'attention que nous avons à avoir. Parce que l'Église s'est toujours intéressée, et le pape François a consacré pas moins de 5 grands discours sur ces questions européennes au cours des dernières années, et ceci passe un petit peu à l'as, et c'est certainement dommage, parce qu'il y a un enjeu qui est un enjeu pour notre civilisation, pour la politique au sens le plus noble du terme, hein, ce qui va permettre de relier les gens, et la construction d'une certaine unité, la construction de la paix, même si elle nous semble aujourd'hui assurée en Europe, mais c'est toujours fragile. Voilà, tout ça, ce sont des questions qu'il nous faut poser et qu'il nous faut avoir à l'esprit à l'approche des élections européennes, pour ne pas tomber simplement dans des querelles politiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec les enjeux européens.
Et nous aurons l'occasion d'y revenir plus largement lors d'une prochaine émission. Mgr Hérouard, on s'y intéressera de près. Un mot pour terminer cette émission avec ce synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui s'est achevé il y a une dizaine de jours. Il y a eu quelques annonces, pas fracassantes, mais en tout cas intéressantes, des pistes intéressantes qui sont ressorties des discussions pendant ce mois à Rome. Il reste encore des gros points de blocage comme l'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église, crise, il y a quand même des points qui ont été débloqués. La question des femmes, il en a particulièrement été question durant ce mois de synode. Ça pourrait être, selon vous, le prochain synode concernant la place des femmes dans l'Église?
Alors, le prochain synode, il y en a déjà un qui est programmé, c'est au mois d'octobre prochain sur l'Amazonie. Donc l'Amazonie, on peut se dire, bah, c'est loin de chez nous, ça nous concerne moins directement. Et en même temps, les questions qui se posent, qui sont des questions politiques, économiques et sociales, mais aussi ecclésiales, parce que dans un territoire aussi vaste, avec une population aussi dispersée, comment est-ce que peut être assurée la présence de l'Église, et en particulier la présence des ministres ordonnés, des prêtres, pour pouvoir offrir les sacrements aux chrétiens. Donc c'est des questions qui sont importantes et qui peuvent avoir aussi des déclinaisons dans d'autres zones géographiques, y compris en Europe, y compris chez nous.
Le prochain synode, donc celui-ci est programmé, on l'a bien compris. La place des femmes dans l'Église, ça pourrait faire l'objet de
ça peut
réflexions
l'être,
hein, poussées dans l'Église ces prochaines années.
De toute façon, c'est une réflexion qui est en cours et qui est bien présente, en tout cas dans la pensée du pape François, qui y fait souvent référence. Après, est-ce que ça sera l'objet d'un synode, je ne sais pas. C'est le pape qui choisit le thème des synodes à partir des propositions qui lui sont faites.
La synodalité, un mot héritier de Vatican II, qu'on a parfois quand même du mal à appréhender. C'est important de comprendre ce mot de synodalité aujourd'hui.
Tout à fait. Le pape François y est revenu à plusieurs reprises. Synodalité, ça veut dire marcher ensemble. Et ça veut dire aussi que l'Église, elle n'est pas une espèce de pure pyramide dans laquelle les choses descendraient d'en haut, du pape aux évêques, aux prêtres et aux fidèles. Mais qu'ensemble, nous avons à essayer d'avancer pour remplir plus fidèlement notre mission. Notre mission, c'est d'accueillir l'Évangile, d'essayer de le vivre pour nous-mêmes et d'en témoigner. Et donc la synodalité, elle consiste aussi à dire que il faut pas tout attendre du pape, ou comme il faut pas non plus tout attendre dans la vie d'un diocèse de l'évêque. Bien sûr, il a un rôle important, il a une fonction particulière, mais c'est aussi ensemble que on fait vivre l'Église et que le témoignage de la foi est donné.
Une précision, ce synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel était un synode d'évêques. Est-ce que cette synodalité pourrait s'ouvrir au vote, alors des religieux, c'est le cas pour les hommes depuis 2015, mais s'ouvrir encore davantage?
Ça paraîtrait assez logique. Hein. Après, voilà, c'est pas moi qui définis les règles de fonctionnement des synodes, mais si les religieux hommes masculins ont le droit de vote, je vois pas pourquoi les religieuses ne l'aurait pas aussi en la matière.
Merci beaucoup, Monseigneur Antoine Héroir. Je rappelle que vous êtes l'évêque auxiliaire du diocèse de Lille. Merci beaucoup.